You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Europa Voice numéro 30 déjà, numéro 30 et comme toujours, Nathanaël Bloch est avec nous. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
Numéro 30, ça se fête un petit peu. Vous n'avez pas amené de champagne, je crois.
Non, je ferai ça pour le 40e.
D'accord, ok, les 40e rugissants. Aujourd'hui, on va parler de Brexit, mais avant de parler de Brexit, on va parler de Sylvie Goulard, puisque on enregistre ça il y a quelques heures. La candidature, le nom de Sylvie Goulard a été rejeté par l'Union européenne comme représentant. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Effectivement, les parlementaires réunis au sein des auditions ont refusé tout simplement d'adouber la candidate française avancée par Emmanuel Macron. Alors il faut savoir que chaque pays propose aux parlementaires un candidat pour être commissaire au sein de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Sylvie Goulard, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines de cela, Christophe, avait dû aller via une seconde audition puisqu'elle n'avait pas convaincu lors de sa première audition, les parlementaires, mais c'est une chose qui arrive et qui est arrivée également à d'autres commissaires candidats, donc ce n'est pas grave. Mais là, c'était l'audition de la dernière chance, d'une certaine façon, et le vote a été cinglant, l'échec a été cinglant, puisqu'elle a été, sur 112 parlementaires réunis, 29 ont voté en sa faveur, un parlementaire s'est abstenu, et 82 ont voté contre la nomination de Sylvie Goulard comme commissaire de la France pour la prochaine Commission européenne.
Alors, on va écouter Sylvie Goulard dans un des derniers commentaires qu'elle a fait, justement, après les questionnements, après toutes les questions qu'il y a pu y avoir sur son sujet. On va écouter Sylvie Goulard.
Je vous demande simplement de prendre en compte l'ensemble de mon parcours, avec ce qui peut vous plaire et ce qui peut peut-être déplaire ou être jugé comme étant moins opportun. Une vie, c'est ça.
Voilà, donc Sylvie Goulard qui demande aux parlementaires de la juger globalement et non pas sur des petites, entre guillemets, aventures, petites erreurs qu'aurait pu, ou des petits détails de sa carrière. Elle veut qu'on la juge et qu'on l'évalue sur sa carrière au complet. Est-ce que c'était un bon choix ou pas du président Macron de mettre Sylvie Goulard? Parce que c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui.
Sur le fond, Christophe, Sylvie Goulard, c'est une spécialiste. C'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages des institutions européennes. C'est quelqu'un qui a été proche, qui a travaillé avec Romano Prodi. C'est quelqu'un qui a été députée européenne, qui s'est battue, c'est vrai, qui a écrit sur l'Europe. Donc c'est quelqu'un, sur le fond, effectivement, qui connaît les sujets. Sur la forme, et c'est bien là le problème, et c'est d'ailleurs ce que les députés lui reprochent principalement, elle n'est pas exempte de tout reproche, ou en tout cas, ça a été difficile pour les parlementaires réunis lors de ces auditions de se dire quelqu'un qui proche une probité totale pour accéder aux plus hautes fonctions au sein de la Commission, elle-même n'est pas exempte de reproches.
Et puis il y a surtout cet élément de dire qu'elle a démissionné du gouvernement français pour certaines raisons, certaines enquêtes, les enquêtes d'emploi fictif auprès du Modem notamment, mais avec très peu d'évolution dans l'enquête, elle est reproposée à un autre rôle. Donc, au niveau européen, on tente à penser que de se dire, bon, bah, si elle n'est pas assez bonne ou pas assez franche du collier pour le gouvernement français, comment elle peut l'être pour une commission européenne? C'est ça le problème.
J'allais dire qu'il y a deux aspects, Christophe, de ce point de vue-là. D'abord, il faut établir la vérité et dire ce qu'il en est de ces enquêtes. On parle d'affaires d'assistants supposés, enfin d'emplois supposés fictifs avec une enquête toujours en cours. Donc c'est vrai, pour l'instant, Sylvie Goulard, sur ce point, elle a raison, sur ce point du droit, elle a raison, elle n'est toujours pas condamnée dans ses enquêtes sur des assistants et ses emplois d'assistants parlementaires supposés fictifs. Ça, elle a raison. Le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement, et vous l'avez mentionné, elle n'était pas assez irréprochable pour rester au sein du gouvernement français. Donc les parlementaires européens l'ont un peu mauvaise de se dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le niveau de probité pour accéder à la Commission européenne est moins important que celui pour rester engagé au sein du gouvernement français. C'est ça qui pose problème.
Voilà. Est-ce que c'est un vrai fait ou est-ce que les parlementaires européens, notamment des gens de la France insoumise par exemple, qui ont quand même tiré à boulet rouge sur cette nomination, est-ce qu'il n'y a pas non plus un caractère politique de, par le biais de dénoncer cette candidature, et ben on dénonce un peu Macron sans vraiment l'attaquer personnellement parce que c'est peut-être un peu dur?
Tout est politique, Christophe. Évidemment, c'est...
je le note, tout est politique.
le refus des parlementaires réunis lors de ces auditions, c'est politique. on fait payer plein de choses à Emmanuel Macron. On lui fait payer d'une certaine façon une sorte d'arrogance quand même sur la scène européenne dans le fait qu'il est... qu'il ait avancé ses pions de manière extrêmement agressive, parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs, il a quand même réussi à imposer toutes ses nominations aux plus hautes fonctions. Hein. Je ne parle pas seulement de Christine Lagarde à la Banque Centrale, mais je parle aussi du compromis pour une Allemande présidente de la Commission. Enfin voilà, on fait payer à Emmanuel Macron ces succès-là. On fait aussi payer à Emmanuel Macron le fait d'avoir, si vous me permettez l'expression, déglinguer un petit peu le système des Spitzenkandidaten. On en avait beaucoup parlé, puisque normalement, ça aurait dû être, vous savez, le candidat représentant le camp qui se présente, proposé pour la Commission. On l'a vu hein, avec Manfred Weber, on l'a vu avec d'autres candidats rejetés. Ça n'a pas été suivi. Et Emmanuel Macron a beaucoup joué pour ne pas, d'une certaine façon, respecter cette règle orale traditionnelle qu'on a au Parlement européen. Donc évidemment que c'est politique aussi, cette décision. Mais rappelons-le, et soyons... transparent, il y a aussi du fond, il y a cette histoire d'assistant présumé fictif, et il y a aussi le fait que Sylvie Goulard, elle a travaillé pour un think tank américain où elle était payée alors qu'elle était parlementaire à ce moment-là, des sommes rondelettes.
10 000 euros par mois, hein, on parle de ça. On parle de 300 000 euros au total.
On ne sait pas trop ce qu'elle a fait, elle ne veut pas tellement s'étendre sur le sujet, donc vous voyez, c'est un mix à la fois de moraline et caractère très politique de refuser la candidate mise en avant par le président français Emmanuel Macron.
D'ailleurs, Emmanuel Macron, on va l'écouter, c'est sa réaction, on l'écoute.
J'ai soumis trois noms, on m'a dit « votre nom est formidable, on le prend », et puis à la fin on dit « finalement on n'en veut plus ». Les mêmes. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre.
Alors moi j'ai un mot, hallucinante. Elle est hallucinante cette réaction si on la détaille en mots, parce que ça vient vraiment à l'encontre de ce qu'il a pu ou comment il a pu réagir sur d'autres sujets. Elle est hallucinante cette réaction.
Alors là, je prends ma casquette de communicant de crise. Il réagit à vif là, Emmanuel Macron. Ça se voit, c'est pas
planifié,
c'est
ça.
C'est pas préparé, l'intervention, elle est pas préparée. À la rigueur, c'est un petit peu... mais je comprends pas, moi je suis exempt de tout reproche, comment ça se fait qu'on puisse se permettre de faire ça?
On l'a dit hors micro, pour les gens qui connaissent, c'est un peu Calimero quand même.
Ah oui, non mais totalement, là on a l'impression qu'on a enlevé à l'enfant le hochet qu'on lui avait promis, ou en tout cas qu'on lui avait dit qu'on lui donnerait. Non mais la réaction d'Emmanuel Macron, elle est vraiment à vif, parce que il faut le dire, hein, Christophe, évidemment, déjà après la première audition et le refus de nommer, en tout cas la suspension de nommer Sylvie Goulard commissaire européenne, c'était déjà un petit choc, mais c'était déjà arrivé. Il y avait plusieurs commissaires dans des mandatures précédentes qui avaient dû passer par une seconde audition. Et c'est le cas aussi pour cette mandature-là. Mais là, c'était véritablement un choc, parce que je pense que le président français ne s'attendait pas, non seulement il ne s'attendait pas à ce que Sylvie Goulard soit refusée, il ne s'attendait pas à un tel aveu d'échec, parce que, en fait, si on détaille les chiffres hein, de 29 en faveur, 82 contre et une abstention, donc ça, c'est pas l'ensemble pour nos auditeurs, c'est pas l'ensemble du Parlement européen, c'est les parlementaires réunis pour cette audition en particulier, parce qu'elle concerne les commissions dans lesquelles ces parlementaires vont siéger et commissions qu'aurait dû mener Sylvie Goulard. En fait, ceux qui ont voté pour Sylvie Goulard, c'est simplement ceux de son camp, c'est Renew Europe. C'est-à-dire que les partis, et le PPE, et le Parti Socialiste et les autres, ont refusé. Donc il n'a pas réussi à convaincre droite et gauche, ce qui était aussi un peu sa marque de fabrique à Emmanuel Macron, de voter pour sa candidate en dehors des partis ou au-dessus des partis. Donc elle a été refusée, de manière assez importante. Et puis surtout, il avait beaucoup avancé, le président français Emmanuel Macron, que c'était la meilleure candidate. Il y avait plein de noms qui avaient circulé à l'époque déjà. Il y avait Florence Parly, la ministre des Armées. Il y avait Ségolène Royal. Il y avait des hommes, des noms d'hommes qui avaient circulé. Mais il faut aussi le dire, c'est pour ça que c'était un bon choix. C'était un bon cheval pour Emmanuel Macron. C'est qu'on devait aussi respecter la parité au sein de la commission. Et donc maintenant, Emmanuel Macron, eh ben, il va devoir chercher une autre femme pour être commissaire européenne.
Alors justement, ma prochaine question, on fait quoi? On en est où? Il se passe quoi?
Bah, y a un coup près. Hein. On est habitué avec le Brexit, il y a toujours une date limite.
Brexit, on n'en a pas encore parlé, on va en parler.
C'est le 17 octobre. Emmanuel Macron a jusqu'au 17 octobre pour proposer d'autres noms pour cette commission, pour cette présidence, pour cette commission. Donc il y a plusieurs noms qui avaient circulé. Hein. Il y avait Florence Parly, ministre des Armées, il y avait Ségolène Royal. On parlait à un moment, mais ça pose évidemment le problème de la parité. On avait parlé de Bruno Le Maire. On avait parlé même de Michel Barnier, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui trouvent qu'il fait un travail formidable en tant que négociateur du Brexit, et puis c'est un Européen convaincu le problème de Michel Barnier, c'est non seulement la parité, mais c'est aussi qu'il appartient au groupe du PPE, donc c'est pas le groupe d'Emmanuel Macron, il va avoir du mal à convaincre son groupe.
Et que le Brexit n'est pas conclu.
Donc pour l'instant, si vous voulez, je crois qu'on a quelques heures pour encore digérer la nouvelle, mais très vite, hein, avant le 17 octobre, Emmanuel Macron va réfléchir et proposer une nouvelle candidate en remplacement de Sylvie Goulard.
Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle justement donc de Sylvie Goulard qui a été, eh bien, on a été refusé au niveau des commissions européennes. Brexit, vous l'avez dit, il faut en parler. Il s'est passé quelques informations cette semaine, notamment, alors d'un côté Angela Merkel qui aurait discuté avec Boris Johnson, qui dit que un deal, c'est pratiquement improbable. Et puis à travers la nuit, Boris Johnson qui a discuté avec le Premier ministre irlandais, puis d'un seul coup le deal devient une nouvelle fois probable. Donc les choses bougent ou est-ce que c'est juste de la com?
Les choses bougent tout le temps, Christophe, avec le Brexit, mais même la semaine dernière, si nos auditeurs s'en rappellent, on prêtait à Boris Johnson d'avoir évoqué dans certains documents un délai supplémentaire de 3 mois pour négocier le Brexit, délai en fait qu'avait voté son propre Parlement. Donc je pense qu'on est dans malheureusement un mix des deux, donc on n'arrive pas à voir clair, mais oui, ça s'agite parce que là, la date fatidique du 31 octobre approche. Moi, je vois très peu, en fait, si vous voulez, Christophe, mais c'est un avis personnel, Angela Merkel à la manœuvre de ce Brexit, puisqu'Angela Merkel, elle est sur une fin de mandat, elle a une legacy déjà importante, elle n'a pas besoin de... Et de toute façon, elle ne pourra pas briller à travers ce Brexit. Moi, je crois surtout que Boris Johnson, là, il essaye... Il a vu, en fait, ce qu'il a vu, c'est qu'à travers son nouveau plan, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière... L'Europe, elle, ne pouvait pas prendre de décision, elle ne pouvait pas prendre de position s'il n'y avait pas véritablement des avancées. Et si la question du backstop irlandais, on revient toujours au backstop irlandais, n'était pas réglée. Donc je crois que Boris Johnson, il est obligé de chercher. Donc je crois que ce n'est pas seulement la com, il y a des tractations. Et puis, depuis fin de semaine dernière, Boris Johnson, il est aussi en tournée européenne. Alors il est en tournée physique, mais il est aussi en tournée en conf-call. Il est obligé de négocier. Et on l'a vu, quand il va de manière assertive sortir un nouveau plan avec peu de changements, ça braque un peu l'Europe. Donc, ce qu'il fait aussi, c'est que maintenant, il teste un petit peu en amont avec ses négociateurs, avec ceux qui restent, parce qu'il y a encore des défections, avec ceux qui restent. Il va tester aussi les nouvelles solutions, parce que plus on s'approche, si vous voulez, et plus on va devant, pas un no deal, mais on va devant une incertitude. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer le 1er novembre. On ne sait pas comment on va nommer, en fait, le moment. On va être dans quel moment le 1er novembre? Est-ce qu'on va être dans un no deal? Est-ce qu'on va être dans un Royaume-Uni qui appartient encore à l'Europe, mais avec aucun cadre juridique? C'est aussi ça le problème. C'est comment on va le nommer ce moment.
Alors, juste une question de poids des choses. Une déclaration d'Angela Merkel contre une déclaration du Premier ministre irlandais, on peut penser que dans le poids européen, Angela Merkel a plus de poids. Mais dans le contexte du backstop, le fait est que le Premier ministre irlandais dit qu'un deal est peut-être probable. Est-ce que ça veut dire qu'un accord est peut-être sur le point d'être trouvé? Donc, du coup, le poids de la déclaration irlandaise devient tellement plus importante que la déclaration allemande, si on met ça dans le contexte.
Comme le problème principal de ces négociations à l'heure actuelle, en tout cas ce sur quoi la focale est mise, c'est le backstop et cette frontière irlandaise à ne pas reformer pour respecter les accords du Good Friday, moi j'aurais tendance à dire que si les Irlandais, le Premier ministre irlandais, mais si les Irlandais prennent position et disent voilà, toutes les parties sont satisfaites de cet accord parce que ça va préserver à la fois le Good Friday Agreement, parce que ça va permettre aussi de respecter les standards de produits européens qui ne pourraient pas entrer comme cela sur le marché européen parce qu'il y aurait toujours une manière mais efficace de les contrôler, parce que c'était un problème aussi, on l'avait vu, c'était que les contrôles mis en place par Boris Johnson étaient infaisables. Ce qu'il proposait, ce n'était pas du tout envisageable. Mais si les Irlandais, par contre, prennent position et d'eux-mêmes arrivent à montrer qu'ils se sont mis d'accord, alors j'aurais tendance à dire que oui, peut-être que la voix d'Angela Merkel sera un peu diminuée parce que ce serait très mal venu de la part des Européens de dire bon, le problème irlandais maintenant est réglé, le backstop est réglé, mais il va rester... Vous voyez, si on arrive vraiment à résoudre cette question-là, je pense que ça peut faire grandement avancer la chose. Et puis, c'est toujours la même chose, ça viendra peut-être de l'intérieur, la solution des principaux... poseur de problèmes.
Absolument. Alors, en tout cas, il y a pas mal d'informations qui vont arriver dans le courant de la semaine prochaine. Donc, le podcast de la semaine prochaine devrait être important puisque le Parlement britannique est rappelé exceptionnellement un samedi, ce qui est presque jamais arrivé. Il y a une espèce de prorogation qui va être très courte, qui va être lancée par la reine. Donc, la reine va arrêter le Parlement et le réouvrir presque instantanément. Il y a un discours de la reine qui se prépare. Donc, logiquement, le podcast de la semaine prochaine devrait être très axé Brexit, sauf s'il se passe quoi que ce soit.
Oui, ça va être axé Brexit. Et puis, ce qui est intéressant, on en avait aussi parlé dans une précédente émission, c'est qu'on voit aussi comment la reine, tout d'un coup, mais pour les Européens, presque d'autres pays, prend une position aussi très politique, finalement. Ce n'était pas son rôle. Et ce n'est pas le rôle de la reine, mais on le voit. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est comment la solution peut venir aussi de l'implication de la reine dans ce Brexit. Puisqu'il faut le rappeler, un des problèmes aussi, c'est que Boris Johnson, quand il avait proposé son plan à la reine, la haute cour de justice, la cour suprême, avait dit, le problème, c'est qu'il avait proposé des exposés de motifs qui étaient fallacieux. Donc la reine n'avait pas en main tous les éléments pour juger de la cohérence de proroger le Parlement. Là, on peut penser que si la reine activement s'implique la semaine prochaine dans le Brexit, c'est qu'elle a backé, évidemment, avec les services adéquats, le fait qu'elle a maintenant tous les éléments en main pour peut-être dire, ça y est, on siffle la fin de la récré, voilà ce qu'on va proposer de faisable, d'envisageable et de négociable avec l'Union européenne.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci. sbs.com.au